Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 2 de cette série un petit peu de transmission sur la musique et finalement tout le travail de Mathieu Shadowsky. Merci d'être là.
Merci.
Alors aujourd'hui on va aborder dans cet épisode un grand sujet, un sujet qu'on a intitulé la théorie musicale avec finalement une entrée sur... Qu'est-ce qu'une fausse note de musique?
Une fausse note, qu'est-ce que c'est?
Dis-nous tout.
Ça veut dire que il y a des a priori qui sont posés, qui vont dire que l'instrument de musique sur lequel on va jouer, l'outil sur lequel on va jouer, plutôt l'instrument sur lequel on va poser des gestes,
Oui.
est réglé de telle manière à ce qu'on puisse sortir des sons qui sont acceptables.
D'accord.
Et d'autres qui ne le sont pas.
En termes d'audition,
En
ce
termes
qu'on
de,
entend.
en termes d'audition.
D'accord.
De l'audition, c'est-à-dire ce qui va nous faire accepter par à travers l'audition, moralement. C'est-à-dire,
D'accord.
en fait, c'est une morale.
Donc moi, si j'entends une musique, je vais avoir quelque chose de très mélodieux, et puis je me dirais que ça, c'est des vraies notes. Parce qu'en fait, vrai et faux, c'est un peu compliqué. Et donc, vraie note. Et puis finalement, dès que ça va sortir un petit peu de ce que j'ai l'habitude d'entendre, je vais trouver que c'est une fausse note.
C'est ça,
D'accord.
c'est ça.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, la fausse note, le fait d'avoir cette notion de fausse note, va nous donner en fait un champ, un espace terriblement réduit des hauteurs de son possible jouable sur un instrument de musique. Et
D'accord.
ça, c'est assez extraordinaire.
Ok. Et alors, est-ce que... Par exemple, sur un peu la théorie, même sur l'histoire, en fait, une fausse note, ça peut être sur n'importe quel instrument. N'importe quel instrument peut générer une fausse note.
N'importe quel, ou tous les instruments peuvent générer des fausses notes.
D'accord.
Donc si on renverse l'idéologie de la fausse note et des notes justes, c'est-à-dire qu'on remplace les notes justes par les notes fausses, en fait on se rend compte que les notes justes elles sont minoritaires par rapport à toutes les fausses notes possibles qu'on peut jouer dans le champ. Et on
Alors...
se dit, dans ce cas-là, mais qu'est-ce qui génère les fausses notes? La fausse note, en fait, est générée parce qu'en fait, on a une gamme, on pourrait appeler ça monoscalaire, quelque chose comme ça. Parce qu'en
D'accord.
fait, on se base sur une seule gamme.
D'accord, une gamme. Est-ce que historiquement tu peux revenir
Qui
un
n'est
petit
pas
peu?
une gamme, en fait.
Tu peux revenir historiquement parce que là déjà ça plonge très très loin. Moi
Ah oui, historiquement.
je comprends pas tout. Comment historiquement on en est venu à définir une vraie et une fausse note? Qu'est-ce qui s'est passé?
Waouh, ça remonte très loin. En fait, ça remonte à Pythagore, cette affaire.
D'accord, dans les maths, on replonge dans les maths.
En fait, c'est ça, on replonge dans
Intéressant.
les maths. C'est-à-dire que Pythagore a découvert que la résonance d'une corde, pas d'un son pas un tuyau ni percussion, la corde, avait des harmoniques. Et quand il mettait le doigt au milieu de la corde, qui divisait la corde donc en deux, il avait en fait deux ventres au lieu d'un seul. Quand il jouait la corde, quand la corde était déclenchée ou attaquée. Attaquée, c'est bon. Parce que quand la corde est attaquée et qu'on ne pose pas le doigt dessus, en fait, ça fait comme un ventre. La corde, elle est attachée au debout, et en fait, ça fait comme un ventre.
Une
Quand on regarde
vibration.
visuellement, on voit que ben, tous les mouvements, parce qu'en fait, on ne peut pas voir aussi rapidement que le déplacement de la corde. Et c'est ce qu'on appelle la fréquence en fait, de déplacement de la corde.
D'accord. Donc c'est comme s'il y a une corde tendue, on la fait bouger, on lui donne une impulsion,
Et
elle
donc
définit
elle
un
crée,
mouvement, et
voilà,
puis là on
et
la...
elle crée un champ en fait qui est une espèce de ventre, en
D'accord.
forme de ventre.
D'accord.
Quand on appuie en fait, quand on effleure la corde au milieu, exactement divisé par deux, en fait on a deux ventres.
D'accord.
Et le son qu'on a, en fait, est le son qui est le double du son de la corde.
Donc ça nous donne une note. C'est une note.
Ça nous donne une note en plus.
D'accord.
On,
Donc
là, on
ça.
a deux notes en fait.
D'accord.
On
Donc
a la note, ce qu'on appelle la note fondamentale, où on ne touche rien.
on touche rien.
Et il y a la corde où on effleure au milieu, qu'on appelle l'octave. Alors là aussi, pourquoi on appelle ça l'octave, je le dirai plus tard.
OK.
Donc là, on a deux notes. On a la fondamentale et l'octave.
Dès que j'interviens, ça crée une octave.
Voilà, dès que je divise par deux. Si on divise la corde par trois et qu'on effleure la corde, en fait, on se retrouve avec trois nœuds.
D'accord.
Et là, en fait, par rapport à l'octave, on a ce qu'on appelle un rapport de quinte.
Ok.
C'est le deuxième intervalle.
Mm-hmm.
Parce qu'entre le premier et le second, donc le premier intervalle c'est l'octave, le second c'est la quinte. Mm-hmm. L'octave en fait, ce qui est le double. Et c'est l'octave en fait, c'est deux. La quinte en fait, c'est deux tiers. Non, trois demi, pardon, excuse-moi.
Trois demi. Chance,
parce qu'en fait, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Et plus en fait, on va dans l'accord, et plus on effleure, si on divise par, comment dire, au quatrième ou au quart en fait, de la note, eh bien, on se retrouve avec quatre ventres sur la corde. Et ainsi de suite. Et 4, 5, 6, 7.
Est-ce que ça a un rapport avec Do, Ré, Mi? Ou pas du tout?
Pas encore.
D'accord.
Pas encore. Et là, en fait, Pythagore découvre que la série des nombres entiers, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
la division, 8,
etc.,
là, entre, ouais.
Puis pas encore le 0, hein, parce que le 0 n'existe pas encore à l'époque, et la suite des nombres entiers, c'est-à-dire la suite des entiers, ce qu'on appelle aujourd'hui en mathématiques la suite des entiers naturels.
Les entiers naturels.
Voilà. Et là, ce qu'on appelle en fait les harmoniques, en fait, les harmoniques suivent exactement la suite des entiers naturels, par la division de la corde.
Oui, oui.
C'est-à-dire... divisé par 1, 2, 3, 4, 5.
Exactement, ce que tu disais.
Voilà.
D'accord. Et donc ça, c'est... Comment... Moi qui n'y connais pas grand-chose, finalement, ça, c'est... Donc là, c'est les notes. Ça, on peut dire que donc, c'est des notes.
Pour l'instant, ce sont des notes de l'harmonie, en fait.
Des notes de l'harmonie.
De l'harmonie. Alors, le passage qui a eu lieu, parce qu'en fait, bon, Pythagore est un espèce de gourou hippie de l'époque, hein, d'il y a 500 ans avant Jésus-Christ, à peu près, qui avait une communauté dans le sud de l'Italie, et qui mélangeait mathématiques, savoir, mais qui était végétarien. Et c'est un homme qui n'a jamais rien écrit. C'est un homme qui enseignait oralement. D'ailleurs, d'accord, tout le monde, comme Socrate aussi, à l'époque, il enseignait de façon orale.
Big up au cours de
C'est Platon qui a commencé à écrire en fait les dialogues en disant tiens je vais utiliser ça pour en fait faire une école faire machin. Le truc en fait ce qu'a fait le truc énorme de ce qu'a fait en fait Pythagore c'est qu'en fait il a transformé le chiffre c'est-à-dire la quantité qu'il l'a sorti en fait de son côté pratique en fait pour mesurer des quantités de terrain acquis ou des trucs à compter en fait des capitaux en fait il l'a sorti en fait il l'a rendu divin parce que son plan à lui en fait c'était de relier tout l'univers avec les chiffres.
Ah oui, d'accord. Donc un peu
là,
obsessionnel.
Voilà, pas obsessionnel mais disons qu'il était
il avait une vision quoi, il voyait quelque chose.
Ben, tu sais, la vision de l'unification des choses, c'est une vision aussi simpliste qui nous rassure. Hein. Et qu'en fait, toutes les religions sont basées en fait, sur l'unification et sur la fusion des choses.
D'accord.
Parce que la fusion, en fait, fait qu'on est un seul tous, et ça nous rassure, parce que la multiplicité, en fait, ça et l'inconnu...
Et alors, c'est quoi la place de la fausse note là-dedans ?
Alors, attends. Parce que donc, ces rapports d'intervalles sont des rapports précis. Et ces premiers intervalles...
Est-ce que ça se représente musicalement, ça ? Est-ce qu'on peut... musicalement, un petit peu.
Oui, on peut le faire entendre.
D'accord.
On peut le faire entendre.
Bon, peut-être qu'on peut, donc là, peut essayer de prendre un exemple.
On va en prendre un exemple tout simple avec une sinusoïde. On va prendre une fondamentale, l'octave, déjà, la quinte, après.
D'accord.
Et la quarte.
Très bien. Bon, bah, on va chercher ça et puis on vous laisse apprécier un peu à quoi ça ressemble.
Alors, l'idée bizarre, en fait, de Pythagore, dans cette affaire, c'était qu'il se disait, mais attends, mais il y avait des gammes déjà qui existaient, en fait, à l'époque. Mais le fait de mettre des chiffres dans des gammes et de pouvoir, en fait, chiffrer cette affaire pour pouvoir relier, en fait, tous les objets, en fait, de l'univers en un seul, les unifier, il trouvait que le chiffre, en fait, c'était extraordinaire.
Il y avait quelque chose.
Et là, il a une idée bizarre, parce qu'en fait, quand tu vois, suppose que ça, c'est la corde 1, quand tu divises... Tu as la moitié, hein, un demi, donc 2. Et dans le sens du son, ça, en fait, c'est l'inverse. Un demi, c'est 2. Là, on va avoir 3. Et le truc qui s'est rendu compte, parce que Pythagore, il a découvert quand même le triangle rectangle, hein, ce fameux calcul que tout le monde fait à l'école. Donc, en fait, là, il a fait exactement la même chose.
On peut se dire qu'en fait, finalement...
C'est de la géométrie, on pourrait dire, vibratoire.
De la géométrie vibratoire, hein, c'est impressionnant.
C'est ça qu'il a posé, en fait.
D'accord. Et donc, ça détermine finalement les notes actuelles.
Ça détermine, pas encore... On y arrive bientôt. Ça détermine en fait le champ possible de l'audible de la gamme.
D'accord.
L'octave, c'est-à-dire le double.
Mais
le truc en fait, c'est que pour qu'une gamme soit entendue comme une gamme, il faut un minimum de 5 notes.
D'accord.
ou cinq tons. Plutôt le ton, c'est...
Qui était à la première strate, en fait. La première strate que tu
m'as évoquée, 1, 2, 3, 4, 5. On a deux tons, là, hein, trois tons. Mm. Donc le truc, il est allé plus loin, il a continué. Tu vois, avec les intervalles plus petits, parce que plus on avance...
Donc
plus...
toujours dans cette division, en fait.
Toujours dans, ce principe dans cette division, pour que ça puisse rentrer dans
l'octave. À partir des cinq, on divise.
Voilà. Et après, il est arrivé jusqu'au demi-ton. Mm-hmm. Et le demi-ton, il a voulu les rentrer dans l'octave. Et quand tu rentres en fait des demi-tons dans l'octave, en fait, ça en fait 12.
D'accord.
Mais le problème, c'est que ça rentre jamais.
Ça ne rentre jamais?
Non.
C'est pas possible.
C'est faux.
C'est quand même pas mal, ça.
Ouais.
Et donc, en fait, on est basé sur quelque chose de théorique, mais qui ne s'applique pas.
Si, justement, si. C'est ça le délire, en fait. Le délire de notre histoire, en fait, c'est que notre gamme est fausse depuis le début, depuis sa conception.
D'accord. Donc, en fait, on est finalement... entouré de fausses notes.
Exactement.
C'est pas mal, ça.
C'est pas mal. C'est intéressant. À part l'octave, les quintes, qui sont plus ou moins, mais en plus, en fait, dans ce principe en fait, de vouloir rentrer 12 demi-tons égaux dans une octave, ça ne peut faire que des fausses notes en relation avec la série harmonique.
Mmh. Et donc ça, Pythagore, il en avait conscience, tu penses? Est-ce qu'il avait conscience de...
Oui, tout le monde avait conscience de ça, mais tous les mathématiciens, en fait. La musique était une des sciences, en fait, une des sciences qui était avec la philosophie et toutes les autres sciences, en fait, jusqu'au XVIIIe siècle. Après le XVIIIe siècle, en fait, la musique a été éjectée en fait, du groupe des sciences et puis a été remplacée par la physique acoustique.
D'accord.
Mais avant, donc, tous les mathématiciens, jusqu'à Euler, calculaient, avaient son truc. Descartes a écrit un bouquin sur la musique, Euler a écrit un bouquin sur la musique.
D'accord.
Ils ont tous calculé, en fait, pour que la gamme, en fait, rentre dans le truc.
Mmh.
Mais la gamme rentre.
Et est-ce que ça a été finalement aussi un petit peu un moyen de poser des bases d'écriture, notamment? Est-ce que finalement, donc tout ça, ça a pu donner...
Non, c'est autre chose. Là, on est dans essayer de trouver... L'idée, en fait, de Pythagore, c'était de trouver une gamme commune pour tous les instruments.
D'accord.
Et en fait, que tous les instruments soient accordés sur la même gamme.
Voilà, qui s'applique à tous les instruments.
Voilà.
D'accord.
C'est l'idée de...
Et comment ça a évolué après, dans le temps? Alors, donc on est parti sur, finalement, une base qui était un petit peu...
On est tombé sur une base naturelle de suite de chiffres, mais qui ne rentre pas, en fait. C'est comme si des cubes ne pouvaient pas rentrer les uns dans les autres, en fait. Et donc, on force un peu.
D'accord.
On force un peu jusqu'au moment où, en fait, on va même bouger les fréquences. Aujourd'hui, par exemple, ce qu'on entend... comme gamme, c'est-à-dire les 12 demi-tons qui divisent l'octave, en fait, sont...
Ça se traduit par quoi, ça, les 12 tons?
Ce sont des demi-tons, on peut écouter.
Ok.
Hein, comme on va écouter là maintenant une gamme de 12, okay. Notre gamme de 12 demi-tons, exact.
Histoire que je comprenne un peu mieux.
Égal.
Allez, c'est parti. Donc là, on a eu cet exemple.
Et on appelle ça, en fait, une échelle.
OK.
L'image de l'échelle, en fait, est très intéressante parce qu'en fait, l'image, elle a des, comment dire, des étapes, en fait, qui sont égales. Il n'y a, a pas d'échelles, en fait, qui sont inégales. Il y a comment on appelle ça, des marches.
D'accord.
Les marches, on ne va pas y en a une qui va être plus large, l'autre qui va être plus fine.
On a exactement la même distance, entre guillemets.
On a une distance pour marcher avec les pieds, pour accéder, en fait, à l'étage supérieur ou redescendre quand on est en haut. Pour pas qu'on se casse la gueule, quoi. Et en fait, une échelle, c'est ça, en musique. C'est-à-dire, ce sont tous des intervalles égaux. Mais ce qu'on appelle gamme, en fait, ce sont en fait des modes. C'est-à-dire, en fait, on va choisir dans les 12 demi-tons 7 notes qui vont former le mode.
D'accord.
Et le mode majeur et le mode mineur.
Ok. Le mode majeur et le mode mineur.
Et c'est pour ça, en fait, que ces 7 tons qui étaient, en fait, on a toujours joué sur des gammes de 7 tons et non pas 12. Plus tard, sur 12, mais au début, en fait, c'était 7. On appelle ça heptatonique. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'octave. Parce que l'octave, donc, c'est la 8e note du mode qui est la même, en fait, que la première.
D'accord.
C'est comme, en fait, une horloge. 12 heures. Et, en fait, après, les aiguilles reviennent au même endroit. C'est exactement là. C'est la même chose. Quoi.
Okay.
Sauf que là, on est plus dans l'aigu ou plus dans le grave.
Alors, comment ça s'est développé après, une fois qu'il y a ces choses-là qui ont été posées?
On peut dire que le champ de tolérance, en fait, s'est amoindri avec l'histoire.
D'accord.
Parce qu'en fait, technologiquement, on pouvait faire aujourd'hui, par exemple, à ce que des notes tiennent. Parce que le problème d'un instrument de musique, c'est que pendant que tu joues de la musique, l'instrument, c'est des accords. Mmh. Il est en bois,
ça bouge.
Mmh. Ça bouge en permanence. Mmh. Donc en permanence, en fait, il faut re-accorder son instrument.
Ouais, ouais.
On en voit des musiciens qui n'arrêtent pas de retrouver.
Oui, bien sûr.
Ils se réaccordent sans arrêt. Mmh. Parce que le problème, en fait, c'est que ça se détend, ça bouge.
Mmh. Mmh.
Donc on est toujours dans la fausse note.
D'accord. Donc en fait, là, ça veut dire que c'est un exemple type sur, finalement... un petit peu des modes de jeu qui vont sortir du cadre si on est désaccordé. Si on est désaccordé, finalement, on joue quelque chose...
Qui va être à côté.
Qui va être à côté.
Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on joue deux sons qui sont similaires...
On peut avoir un exemple, par exemple, là, si on s'écoute, un instant musical accordé et désaccordé, c'est possible, ça ?
C'est possible, il faudrait que je fasse par ordinateur.
Par ordinateur, on pourrait avoir un exemple de ça.
Oui, on pourrait avoir un exemple de ça. Par exemple, prendre une pièce classique, une pièce, je sais pas, ben, le plus facile, ce serait une pièce pour piano.
Ouais, ok.
Et allez, Jean-Sébastien Bach, qui est par exemple.
On part là-dessus ?
On part là-dessus.
Un Jean-Sébastien Bach accordé et désaccordé.
Voilà.
Allez, bon bah, on va se lancer pour la première partie accordée. Et maintenant, qu'est-ce que ça donnerait sur la partie désaccordée ?
Voilà.
Ok, allez, on écoute ça. Très bien. Alors, maintenant qu'on a entendu ça, alors je sais pas si...
Alors,
moi, je prends un peu conscience là du décalage qu'il peut y avoir.
Donc là, la première question qu'on se pose, en fait, ce qui s'est passé historiquement, comment ça s'est passé, c'est qu'en fait, le problème en fait, d'une seule horloge, c'est qu'elle a un nombre d'horaires en fait, qui est limité.
Mmh.
Et dans une musique en fait, qui se base en fait, ce qu'on appelle une tonique, une teneur, une fondamentale, ce qui est en fait la corde à vide en fait, qui vibre et que tout se construit dessus.
Celle du début dont tu nous parlais.
Celle du début on parlait, et que toute la musique, par exemple le chant, on va tenir comme une basse continue comme ça, ou une basse, et puis donc, la voix va chanter en fait sur cette base qui va tenir en fait. Et bien on s'est rendu compte à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire à la fin du romantisme, que en fait on est arrivé à une limite qu'on ne pouvait pas dépasser.
D'accord.
C'est-à-dire au niveau harmonie, l'harmonie des accords, où on est arrivé à des accords de 5 tons, 6 tons, où en fait, à ce moment-là, on dépassait une forme en fait, de reconnaissance tonale.
D'accord, d'accord. Et ça peut se traduire de manière... avec la musique, comment on traduit ce... Quand tu nous parlais de voix et de cordes, c'était ce duo voix-cordes qui finalement était limité, c'est ça ?
C'est-à-dire, en fait, ce qui est limité, c'est les possibilités en fait, de variation. parce qu'en fait toute la musique classique est basée en fait sur la variation, sur le thème et la variation.
D'accord.
C'était ça l'idée en fait. Le thème, il n'était pas propriétaire comme il est devenu en fait au 19e siècle.
Mm-hmm.
Et chacun prenait n'importe quel thème. En fait, ce qui comptait dans la composition, c'était pas trouver le thème, mm-hmm. mais c'était en fait l'intelligence de la variation.
D'accord.
Et l'intelligence
de le jouer en fait.
La variation aussi bien harmonique que rythmique, c'est-à-dire dans les accords, dans les mélodies superposées, dans la polyphonie, mm-hmm. dans les développements,
okay.
et le raccourcir, rallonger. Et tout ça, c'était ça en fait l'intelligence qui se déployait en fait dans l'écriture musicale.
Sur une vision assez globale en fait.
Sur une vision globale.
Mmh.
En général, les pièces elles étaient longues.
Mmh.
C'est vrai que une symphonie ça dure une demi-heure.
Mmh.
Ça peut durer jusqu'à 4 heures. C'est vrai qu'après les romantiques ils sont allés plus loin. Plus loin, le musicien commence à être fatigué parce qu'à l'époque il n'y avait pas l'électricité.
Yes.
Et donc ces compositeurs comme Mahler, Bruckner, les derniers romantiques en fait, ils sont allés jusqu'au bout du possible. On peut montrer comment dire peut-être deux morceaux en fait, un morceau où l'harmonie est simple.
Mm-hmm.
Un truc, on peut mettre le chant grégorien par exemple du 8e siècle.
Mm-hmm.
Et la dernière, un passage d'un mouvement d'une symphonie de Mahler.
Allez, c'est parti pour un chant grégorien. Huitième symphonie de Mahler.
Voilà.
Ok, c'est parti. Mouvement.
Yeah.
Et avec tout ça.
Et avec tout ça, bon, est arrivé cette limite où on ne pouvait plus aller, quoi. On était, tout le monde était dans, les compositeurs étaient dans l'impasse. Et donc c'est là où a commencé à avoir en fait trouver des solutions à
déjà,
l'impasse.
Quel était ce distinguo là entre les deux dans l'évolution qu'on a pu entendre à l'instant? Quel est ce passage de l'un à l'autre et qu'est-ce que ça traduit alors
entre le chant grégorien et Mahler?
Tout à fait.
Le chant grégorien sont des militaires, on pourrait dire ça, parce qu'en fait c'est de l'homophonie. Ils chantent tous la même note.
D'accord.
Et Mahler c'est de la polyphonie et de la rythmique dans tous les sens.
Ça y est, ça part quoi.
Ouais, ça part. C'est un début de chaos quoi.
Ok. Mais
tenu.
D'accord.
Avec cette identification mélodique possible.
Yes, donc il est rentré encore dans des cases qu'on arrivait à identifier, à accepter.
La mélodie, on aime la mélodie parce qu'en fait la mélodie c'est un repère, c'est une encre, c'est une borne, c'est quelque chose en fait dans l'espace, dans le temps en fait qui nous dit ah oui c'est une belle mélodie parce qu'en fait ça nous rassure.
On comprend.
Et quand la mélodie se perd dans plusieurs voix déjà, aïe.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est de la fausse note peut-être?
Pas encore.
C'est là où ils sont allés au bout d'un truc qui était acceptable, mais qui quand même commençait un petit peu à...
Déjà au 19e siècle, comment dire, ça commençait à se rigidifier, parce qu'en fait, le diapason a été inventé au 19e siècle. Le diapason, ce qui voulait dire avant octave, mais en fait, qui voulait dire en fait fréquence d'accord de tous les orchestres en fait, du monde sur la même fréquence.
D'accord, donc c'est une base commune.
C'est une base commune. C'est-à-dire cette fusion, tu vois, qui a commencé avec Pythagore, qui continue au...
Mais c'est quand même important, ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette principe de
base commune? Parce qu'en fait, c'est comme la gamme, quoi.
Mais comment on fait, alors, par exemple, sur les langages? Si, par exemple...
On va y arriver. Attends, laisse-moi dire. Là, au 19e siècle, en fait, il y a eu ces deux désirs-là, en fait, d'unification. C'est-à-dire, en fait, on pose en fait le diapason comme étant le La440, qui est le même pour tout le monde. Donc, tu vas écouter une symphonie au Japon ou tu vas écouter une symphonie à Paris, c'est la même chose. Tu auras exactement le même accord. Ce qu'ils ont inventé, en fait, au 19e siècle, c'est le métronome.
Alors, métronome. Ça, c'est la règle ultime. c'est la norme ultime, non?
C'est une norme. C'est une règle, c'est une échelle, en fait, qui va te dire que toutes les vitesses, en fait, sont quantifiables.
D'accord.
Tu vois.
OK.
Donc, ça a commencé, en fait, la quantification avec l'industrialisation.
Ce mouvement.
La quantité, tu vois, de choses, en fait, qu'il faut mesurer, en fait, mesurer le capital, quoi.
OK.
Tu vois.
Wow,
donc, on a mesuré le capital vitesse, d'un côté, et de l'autre côté, on a mesuré le capital fréquence.
Là, donc, il y a un basculement, quoi, clairement.
Non, il y a un resserrement.
Ouais, ça se resserre, en fait, plutôt.
Tu vois, la musique baroque, par exemple, ils avaient ils n'avaient pas de diapason, ils n'avaient pas de métronome, c'était au feeling.
Jouer l'instant, quoi.
Voilà, c'était au feeling. Ouais. Après, la musique baroque, ça a été la musique romantique, qui en fait est devenue une musique presque militaire, en fait. Au sens, les compositeurs essayent de sortir de ça, justement, en développant et en exagérant les variations pour sortir de ce côté militaire.
Donc, ça a été aussi un peu le rôle, finalement, des compositeurs de remettre en question un petit peu ces normes-là.
Toujours.
Et d'aller toujours.
Tous les compositeurs sont tous des anarchistes.
D'accord.
Tous. C'est-à-dire, tu peux pas être créateur si t'es pas anarchiste.
D'accord.
Si tu copies les autres, Mozart est un anarchiste, Bach est un anarchiste, tous sont des anarchistes.
Donc, est-ce qu'on peut avoir cette impression de réflexion, a priori, si on est dans la composition, en tout cas, qu'on a cette initiative-là d'aller chercher des chants un petit peu qui sortent des gammes établies, on est sur, finalement, de la recherche de fausses notes?
On dit sur un élargissement en fait de l'état d'esprit.
Ok.
Parce qu'en fait, tu as l'impression que toute notre histoire civilisationnelle en fait est un rétrécissement en fait de notre vision en fait d'état d'esprit. Comment est-ce possible, hein? Voilà la première question que je me suis posée quand je suis arrivé dans le monde de la musique.
Sur ta pratique à toi, oui.
Ouais. Comment je suis arrivé? Je me dis tiens, mais comment c'est possible en fait d'avoir une seule gamme? C'est bizarre ça. Ça m'a étonné quoi. Parce qu'il suffisait que je bouge un petit peu le chevalet, tu vois, de mon instrument, de ma guitare, pour dire ah bah tiens, c'est complètement différent. Et là, ça sonne bien, là. Et puis après, tu vas dans un autre pays, et puis tu vois un instrument, puis il n'y a carrément pas de case, en fait, donc tu dois le faire à l'oreille. Mais comment tu peux être précis? Tu ne peux pas être précis. Ou tu as des autres instruments qui sont accordés, mais comment ils sont accordés? C'est bizarre.
Attends, mais comment je reproduis les divisions mathématiques des Pythagore, là? Comment je fais?
Comment je fais?
Avec un instrument.
Le truc, en fait, c'est qu'on ne s'est jamais posé la question parce qu'en fait, l'objet est donné d'avance. Pourtant, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu fais de la théorie musicale? On s'en fout parce que déjà, les instruments existent.
Ils sont là.
Et oui, mais il y a un autre copain qui lui répond, mais parce que c'est imbécile, parce que ces instruments, s'il n'y avait pas la théorie musicale, ils n'auraient jamais été construits comme ça.
S'il n'y avait pas
de théorie musicale.
D'accord.
Ils auraient été construits différemment.
Donc
c'est là où tu te dis, ah, ça veut dire qu'en fait, on pourrait construire des instruments de musique qui sont tellement différents les uns des autres, grâce à la théorie.
Ok.
Mais comme on a choisi seulement un seul point et une seule vision de la théorie, c'est-à-dire l'unification sur une division exacte de 12 demi-tons sur l'octave,
ça resserre alors qu'on a
et donc tout ce
un
qui
son
sort
des possibles voilà. En termes de jeu
qui est très très réduit.
Très
très réduit. Et quand on sort de ces possibles, enfin de ce qui est donné, quand on désobéit en fait, eh bien on est dans la fausse note. La fausse note en fait est synonyme de désobéissance.
D'accord.
Tu vois. Alors le truc c'est qui est intéressant, c'est qu'on se dit OK, donc il y a un champ en fait qui est précis avec des bornes précises
normées.
Sur lesquels on doit marcher, mais on ne doit pas marcher à côté. Et si on marche à côté, mais le flou est tellement énorme à côté, et l'espace est tellement énorme, et nous, on marche sur des cailloux, sur des pointes de cailloux, tu vois, pour être juste.
C'est dit. Donc, ça, tu l'as... Ouais, donc ça, tu l'as constaté, et au niveau de ta pratique musicale, comment ça s'est traduit
dans... J'ai désaccordé mon instrument.
T'as désaccordé l'instrument, direct.
Tout de suite. Et après, j'ai fait des calculs.
D'accord.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de calculs.
Explique-nous un peu.
Donc voilà, alors ça s'est passé comme ça. Je me suis dit, bon, déjà, il y avait les impulsions. Il y avait des impulsions, alors que je termine vite fait l'histoire.
Oui, bien sûr.
Donc, après la fin du romantisme, il y a un compositeur qui s'est posé la question, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faut aller au-delà de la tonalité. Donc, il a créé, en fait, ce qu'on appelle le dodécaphonisme. C'est-à-dire qu'il a... Arnold Schoenberg, avec ses amis Berg et Webern, en fait, tous les trois, ils se sont dit, ben... Et si on utilisait toutes les notes, en fait, à part égale? Parce que dans la tonalité, tu as la hiérarchie. Hein. Tu as l'empereur, qui est la tonale.
Principe de strate.
Tu as le premier ministre, qui est la dominante. La sous-dominante, c'est le sous-ministre. Et en fait, tu as toute cette...
Donc là, on comprend qu'il y a un système.
Il y a un cardinal qui vient directement de la série harmonique. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce 1, 2, 3, 4, 5 n'est pas uniquement pour te dire la quantité, mais dire l'importance. C'est ça le truc terrible, en fait. C'est qu'on confond, en fait, le chiffre cardinal et le chiffre quantifiable. C'est ça notre erreur. En tous les cas, c'est là où on est tombé dedans comme
avec tout ce qu'on vient de se dire, en fait, auparavant, ça se traduit comme ça.
Voilà, cette manière-là. Ça se traduit comme ça.
C'est qu'en fait...
Et donc Schoenberg, il arrive et dit, bon, écoute, on va faire tout égal. En plus, c'était l'époque du communisme. Marx était à fond à ce moment-là. Tu vois.
Donc ça se traduit. Il y avait cache dans la musique.
Il y avait, comment dire, l'Europe n'était pas bien. Ils allaient rentrer dans la Première Guerre mondiale. Ils n'étaient pas encore rentrés, mais je veux dire, ça y allait. L'industrialisation avait créé donc les nouveaux esclaves. Les gens n'étaient pas bien à ce moment-là. Et c'était très mal. Et d'ailleurs, quand tu écoutes la musique de Schoenberg, elle est super angoissée. C'est terrible.
Bah, peut-être qu'on peut s'écouter un petit morceau pour se rendre compte un petit peu de ce que tu es en train de raconter.
Oui, on peut écouter. Il y a beaucoup de choses.
Et l'état d'esprit aussi.
Oui, par exemple, le Pierrot Lunaire, qui est magnifique. Ouais.
Allez, c'est parti.
C'est parti.
Den Wein, den man mit Augen trinkt, gieß nachts der Mond in Wogen nieder. Und eine Sprengflut überschwemmt den stillen Horizont.
Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé alors ?
Qu'est-ce qui s'est passé
alors ? Donc ensuite, il y avait bien sûr les compositeurs, il fallait qu'ils étaient très emmerdés. Hein. Mm-hmm. Et ça, c'est 1907. Mm-hmm. Schoenberg a commencé en 1907. Mm-hmm. Putain, tu te rends compte, c'est énorme, c'est déjà, ça fait un sacré bail. Que là, cette gamme unique est remise en question. Quoi. Mm-hmm. Donc après, en fait, le problème, ce qui s'est posé, c'est qu'ils ont continué. Et après, il y a eu des sérialismes, Pierre Boulez, Stockhausen, tous ces gens, en fait, tous ces compositeurs du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont poussé plus loin. Mais ils sont restés dans l'échelle unique.
D'accord.
Donc ça tournait en rond. Ça tournait en rond et tu sais que quand à force de combinatoire, ça devient monotone.
Et est-ce que finalement...
ils voulaient sortir de cette monotonie, mm-hmm. ils n'y sont jamais arrivés. Par contre, ce qui s'est passé en même temps, parce que là, genre, au niveau de la créativité, quand un compositeur doit trouver des solutions, je veux dire que ça carbure dans la tête. Hein. Mm-hmm. Et tout le 20e siècle, ça a carburé, mais il y a eu des inventions extraordinaires pendant ce 20e siècle. Il y a un type qui s'appelle Ivan Vechnegradsky, qui est un Russe, en fait, émigré de Saint-Pétersbourg, en fait, ancienne Stalingrad, qui est venu, mm-hmm. en fait, à Paris, et qui a eu une idée incroyable. Enfin, pour moi, dans tous les cas, ça m'a parlé tout de suite.
Qu'est-ce qu'il a fait, ce mec?
D'abord, il a commencé avec son copain Louis Saba, qui était tchèque, mm-hmm. à vouloir, en fait, diviser... Et rajouter en fait des tons entre les tons.
Donc en fait, il a continué le travail de Pythagore.
Non. Dans un sens, oui, dans un sens, non. Parce qu'en fait, lui, il n'avait pas envie en fait, d'unifier. Mm-hmm. Il avait envie de multiplier.
D'ouvrir.
De multiplier. Donc il a commencé en fait à dire, bah, tiens, si on faisait 24 tons au lieu de 12. Mm-hmm. Après, il y avait un Debussy qui disait, mais de toute façon, les 24 tons, ils y sont. Parce que quand tu montes, c'est pas la même note que quand tu descends. Oui, mais là, c'était un peu différent, parce qu'en fait, il ne s'agissait pas en fait, d'interprétation instrumentale. Il s'agissait en fait de théorie musicale, ce qui est très différent. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait chiffrer l'affaire. Mmh. Mmh. Donc, quand tu dis, par exemple, de 3 demi-tons et demi, c'est-à-dire 3 demi-tons plus un quart de demi-ton, ça ne sonne pas comme 4 demi-tons.
Et ça permet finalement de rentrer tout un champ de fausses notes dans, finalement, des vraies notes, entre guillemets.
Voilà, parce qu'en fait...
Théoriquement.
L'écriture musicale classique, en fait, était en fait écrite pour rentrer un seul mode de 7 tons, qui est le mode majeur. Et donc, il y a 5 lignes qu'on appelle ça la portée. Et quand tu mets des notes, en fait, des ronds dessus, sur les lignes ou entre les lignes, en fait, c'est le mode heptatonique qu'on appelle le mode majeur.
Ok.
Et pour avoir d'autres modes, on est obligé d'altérer, et on appelle ça les altérations, pour trouver d'autres sonorités. Donc il y avait une domination majeure avec des modes mineurs. Je dis des parce qu'en fait, c'est assez bizarre cette affaire. Il devrait y avoir un mode majeur, un mode mineur, point. Ce que tout le monde croit, en fait. Mais en fait, il y a trois différents modes mineurs, en fait, en Europe. Mm-hmm. Il y a un mode mineur ascendant, ce qu'on appelle, tu vois, qui monte. Il y a un mode mineur descendant qui est différent, il y a un mode mineur harmonique.
Okay.
On a besoin d'appeler ça comme ça. La chose qui est très intéressante aussi, c'est qu'historiquement, un truc qui est caché, bien sûr, dans notre histoire, c'est que ces modes, en fait, c'était les Indiens qui les ont inventés.
Ok.
En Inde. Et qu'est-ce qu'ils nous ont apporté, en fait, ces modes ici en Europe ? Les tziganes.
Uh-huh.
C'est les tziganes, en fait, qui sont... Parce que les Indiens, en fait, ils avaient, en mode heptatonique, ils en avaient 72 ans.
Waouh.
Ils avaient 72 modes qu'ils pouvaient choisir. Parce qu'ils avaient tout fait, toute la combinatoire. Je veux dire que le zéro nous vient d'Inde. Hein.
Ah ouais.
Il a été inventé Il est arrivé, en fait, en France. Imagine le temps qu'il a fallu. Mm-hmm. Il a fallu 11 siècles pour que le zéro vienne, en fait, d'Inde jusqu'en France.
Et comment tu l'as découvert, ça ? C'était pendant ta pratique, ta recherche
de... Le savoir, quand tu veux savoir quelque chose, tu vas chercher.
Tu cherches.
Ah, tu cherches. Et puis il y en a qui sont bien penchés là-dessus. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'erreurs. Hein. Il y a des gens qui ont fait des erreurs. Après, tu vérifies, tu recoupes les informations. Et,
donc, ça
et
nous venait d'Inde, alors, ce...
Le zéro vient d'Inde. Bah, tous les mathématiciens vont te le dire. Mm-hmm. Le zéro vient d'Inde. Et les nombres négatifs n'existaient pas encore, hein, à ce moment-là. Donc les tziganes ont emmené, en fait, c'est pour ça qu'en fait les modes tziganes sont importants, parce qu'en fait, quand moi j'étais au conservatoire de Varsovie, en fait on apprenait ces modes tziganes, parce qu'il y avait plus que le mode majeur et mineur. Mmh. Mais ici, en bout d'Europe, à la pointe, dans ce pays, en fait, il n'en a resté que deux, quoi. Le mode majeur et le mode mineur.
C'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir s'écouter un petit morceau tzigane, notamment, c'est vrai qu'à la guitare, ils font des choses... Il y a des choses assez impressionnantes, on a tous peut-être des souvenirs là-dessus.
Mais je pense que c'est plus intéressant d'écouter la musique tzigane au violon. Parce qu'au violon, il n'y a pas de fret qui accorde. Alors que la guitare, c'est déjà...
Il y a ce fameux accord.
Eh, oui, on est obligé de jouer la note qu'il faut.
Alors que c'est un flux continu.
C'est un flux continu.
Avec le violon. Bon, bah, on va se trouver un petit morceau.
Écoutons ça.
Allez, c'est parti.
Après. Donc, Wechtegradsky trouve ce piano et construit avec Alois Sabas ce piano en quart de ton.
Mm-hmm.
Et là, c'est parti. Là c'était les années 20-30, je pense, à peu près.
Mm-hmm.
Et ils sont allés, en fait, jusqu'au 1/12 de ton. Et on a appelé ça les micro-intervalles.
Micro-intervalles.
Les micro-intervalles. Et à un moment, donc, je tombe sur un livre, en fait, de Wechtegradsky qui parle, en fait, d'espace non-octavien. Qu'est-ce qu'il voulait dire, le bonhomme, par là ? Alors, sachant que Wechtegradsky est un compositeur qui écrivait dans le style des derniers compositeurs post-romantiques, comme Scriabine. Wechtegradsky, son œuvre, est post-scriabinique, on pourrait dire. Ouais, Scriabine. On peut s'écouter du Scriabine.
On peut s'écouter ça ?
Ou on peut s'écouter. Ok. Alors, tu vois, la sonorité très particulière. Uh-huh. On est presque, en fait, on sort de la tonalité avec Scriabine. On est déjà, c'est presque modal. Il y a quelque chose qui se passe. Là, en fait, déjà. Et donc, Wejnegradsky va pousser plus loin et va mettre des notes supplémentaires. Donc, il a divisé par 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, en fait, il a 9 gammes en plus. Uh-huh. Il a 9 échelles dans une seule échelle. Mais, ce qui est intéressant, c'est que toutes ces échelles sont multiples de l'échelle de 12 demi-tons.
Ok, ok.
Lui, ce qu'il a découvert à ce moment-là, c'est qu'il s'est dit, tiens, mais théoriquement, parce qu'en fait, la seule chose qui est au niveau sonore, il a pu construire son piano en quart de ton. Il n'a pas pu plus loin, c'est déjà assez compliqué. Mm-hmm. Imagine deux claviers, tu vois, avec 24, c'est déjà... Le luthier, il a dû se tirer les cheveux, tu vois. Donc, il n'y a aucun luthier qui a voulu jouer ça. Et pourtant, tu vois, c'était au début du XXe siècle. Mmh. Et j'aurais, aujourd'hui, ça devrait être courant, mais ça ne l'est pas. Mmh. En fait, c'est courant, mais d'une autre manière. On va y arriver. Et donc, en Wejnegradsky, son truc, c'est qu'il disait, attends, mais j'ai tellement de... En fait, un douzième de ton, imagine un douzième de ton, ça fait multiplié par 12. Hein. Ça fait en fait que pour 12, tu as 12 demi-tons, tu as 12 fois 12. Il appelait ça en fait le continuum sonore, parce que les rapports de micro-intervalles étaient tellement peu difficiles en fait à truc, on faisait avec qu'en fait ça devenait un truc continu.
D'accord. Est-ce qu'on peut entendre ça? On peut entendre ça?
On va écouter l'échelle d'un douzième de ton.
Allez, un douzième de ton, parce que vu qu'on est très très fort en maths, en calcul mental, on va se fier aux machines.
Autant l'écouter.
Autant l'écouter. Allez, c'est parti.
Et alors, l'intuition magique qu'a eu après Wejnegradsky, c'est mm-hmm. qu'en fait, il s'est dit, mais attends, mais je peux éviter l'octave, parce qu'en fait, il y a tellement de notes autour de l'octave, qu'en fait, je peux continuer en fait, ma gamme, en montant ou en descendant, en évitant l'octave. En évitant l'octave.
En évitant l'octave, c'est possible.
Mais parce qu'il y avait tellement de notes, qu'en fait, on n'est pas obligé d'être pile sur le 2, tu vois, pour terminer. Mm-hmm. Et en fait, il peut continuer plus loin. Mm-hmm. Parce que le truc de l'octave, c'est quoi en fait? Le truc de l'octave, en fait, c'est comme si c'était un éternel recommencement. Mm-hmm. Même si tu vas en fait au son le plus aigu, qui est deux fois plus aigu, en fait, tu as l'impression que ping, boum, ping, et en fait, ça fusionne. Quand tu les joues ensemble, tu n'entends pas deux notes, tu n'entends qu'une seule note.
D'accord. La fusion des notes.
C'est pour ça qu'on s'est dit, ah ben donc si c'est la fusion, dans ce cas-là, il faut qu'on divise en fait ce qui est entre autres, mais on ne peut pas aller plus loin. Mm-hmm. Et Wejnegradsky a dit, non, mais si je pousse un petit peu, ben, avec le clavier, en fait, on peut jouer et puis aller extérieur et faire en fait des échelles, on pourrait dire évolutives. Enfin, il y a eu plein de noms, il y avait des noms en grec, mais en fait, il n'avait jamais entendu.
Yes, ok.
Et donc, en prenant ça, et donc après, donc moi j'ai fait les études avec Xenakis et puis donc avec André Riot, qui est des mathématiciens, hein, des, uh-huh. d'autres, donc ils nous ont appris ça. Il y a Olivier Messiaen qui a fait des tentatives en fait de faire des modes pour qu'il y ait plus de modes que le mode majeur et le mode mineur, mm-hmm. avec ces modes à transposition limitée. Et donc là, j'ai pu voir comment mathématiquement, en fait, sur un système d'une horloge, donc avec 12 horaires, mm-hmm. on choisissait en fait dans les 12 horaires des horaires, alors par exemple 1, 5, 7, 8, 3, mm-hmm. par exemple, et donc ça faisait un graphique qu'on pouvait tourner, et ça c'était les transpositions.
Ok.
Tu vois ce que je veux dire ?
Mmh. Ça veut dire qu'en fait, sur cette image un peu fixée, on va se créer un parcours, on va se dire 3, 4, 7, et en fait, on va déplacer voilà. ce même parcours.
Et donc ça, c'est une transposition.
D'accord.
Et au bout d'un moment, ça se retrouve, ça tombe sur le bas. C'est pour ça qu'il a appelé ça transposition, mode de transposition limitée.
Et alors, c'était quoi l'histoire des noms octaviens là-dedans ?
Alors attends.
C'est ça, en fait.
Donc attends, mais je suis en train de te...
C'est tout ça, en fait.
C'est tout ça. Ouais. Alors, le truc, c'est que... Il y a un autre élément en fait qui m'a poussé en fait à faire ça. Mm-hmm. C'était en fait Xenakis, qu'on appelle ça. Lui en fait, il avait calculé, parce qu'il voulait que mathématiquement tout ça soit cohérent. Mm-hmm. Comme grecque.
Ça rentre dans les
normes. Xenakis, il est d'origine grecque. Hein.
D'accord.
Donc tout ce qui est Pythagore et tout ça, il se sentait vachement concerné. D'ailleurs, mm-hmm. il a dit que tout le monde s'est gouré, personne n'a rien compris de toute façon, et l'erreur.
Il avait cette vision.
L'erreur en fait qui a été commise en fait par les théoriciens au début du christianisme. Parce qu'ils avaient une idéologie forte, en fait, qui voulait absolument aller vers cette unification. En fait,
pas forcément accepté, quoi, par l'extérieur.
Ils n'ont rien compris de la théorie musicale, en fait, grecque antique, qui était beaucoup plus riche, avec les tétracordes, les hexacordes et tout ça, en fait.
Ah ouais, des instruments beaucoup plus complexes.
Donc, peut-être pas les plus complexes des instruments, mais la théorie était beaucoup plus riche.
Ok.
Il n'y avait pas dans cette théorie musicale en fait, de la Grèce antique mm-hmm. de vouloir uniformiser les choses.
D'accord.
C'est ça. Mm-hmm. Nous, la société occidentale, on est obsédé par l'uniformisation. Mm-hmm. C'est quelque chose, depuis Pythagore en fait. Mm-hmm. C'est ça, l'union, c'est l'uniformisation. D'ailleurs, mm-hmm. on le voit maintenant sur la planète, on s'uniformise partout. Mm-hmm. Et alors, donc lui, il a voulu en fait, il a formalisé, comme on dit en mathématiques, en fait, la construction en fait, des modes. Avec ce qu'il appelait en fait la théorie des cribles. Le crible, tu vois, c'est comme un tamis, tu vois, où tu fais passer des graines, où des tailles passent et les deux autres pas.
Alors ça se traduit en musique, ça ?
Oui.
Ah ouais ?
Oui, en mathématiques.
En mathématiques.
Et ça se traduit en son, bien sûr.
Ah ouais ?
Mais tout le chiffre peut être traduit en son.
Ok.
C'est ça la force de la théorie, en fait. Mm-hmm, mm-hmm. Tu vois ? Et donc, en fait, il a montré mathématiquement qu'on pouvait en fait décomposer n'importe quel mode et en fait de retrouver en fait son échelle. Parce qu'en fait, tous les modes viennent d'une échelle, c'est-à-dire une échelle qui a des degrés en fait égaux. Mm-hmm. Hein, c'est pas n'importe quelle échelle, les centimètres, enfin toutes les échelles en fait sont égaux. Le mode non.
Ok.
Et en musique, on utilise surtout des modes. C'est ça, c'est le plus intéressant. En
fait. C'est les modes, ouais.
Ouais. Au niveau audible, au niveau sonore, mm-hmm. et même au niveau sonore, les tentatives, par exemple, de Debussy qui à l'époque en fait avait une gamme par ton, c'est-à-dire en fait, on appelle ça gamme par ton. En fait, il a divisé l'octave en 6 parties égales.
Ok.
Donc c'est une, on pourrait dire un hexacorde ou un truc comme ça en fait. Mm-hmm. Mais ça sonne modal. Et toute la musique de Debussy sonne modal. On peut écouter d'ailleurs.
Allez, on s'écoute un morceau de Debussy. T'en as en tête ou?
Oh tout. Non, parce qu'il y a il y en a partout dans sa
allez,
musique.
Allez, on se lance un Debussy alors.
Allez. Et alors, le truc, à un moment, je me suis dit, mais quand je vois en fait une horloge avec donc les 12 chiffres et que en fait tout est enfermé et que tu vois une ligne en fait qui est d'un côté, tu as la fermeture avec Messiaen qui te montre qu'en fait les transpositions sont limitées. Et de l'autre côté, tu as un espèce de continuum en fait que Wesznegraski te disait. Tu t'es dit, mais si je mets les deux en même temps, ça va faire quoi?
Je sais pas. Qu'est-ce que ça fait quand on met les deux en même temps?
Ça fait des spirales.
Des spirales?
Ça veut dire qu'on sort du champ.
Ok. Mais de manière permanente.
De manière continue,
c'est ça.
Ce que Wesznegraski évitait quand il appelait en fait les espaces en octavian, moi je les ai construits.
D'accord, donc tu as passé finalement...
Je les ai construits...
Il y a la théorie, et puis comment ça se traduit en fait?
Voilà, donc je les ai construits de façon mathématique. Mm-hmm. Donc j'ai calculé en fait les échelles possibles non octaviantes qui évitaient l'octave. C'est-à-dire que si tu répètes un même intervalle, et que ce même intervalle, en fait répété, évite l'octave.
Alors comment ça se traduit
On peut en écouter une, hein, parce qu'il y en a plus de 500 là.
Ah yes. Ah bah vas-y, là, on écoute ça tous ensemble.
Après, oui, j'ai développé de la musique avec ça, parce que c'est trop génial.
Ah ouais.
Je m'éclate.
Ah yes. Donc en fait, ça veut dire que là, on a vraiment eu finalement la traduction audible de la musique non octaviante, qui évite finalement toutes ces octaves. Et à partir de ça, ça crée un champ d'écriture, de composition.
Énorme.
Énorme.
C'est gigantesque.
Ok.
C'est gigantesque. Uh-huh. C'est-à-dire qu'avant... Imagine qu'avant, je veux dire, la musique était basée sur l'idéologie, en fait, que la Terre est plate. Mm-hmm. Avec un cadre qui tourne toujours dans le même sens, à la même vitesse. Mm-hmm. Et qu'aujourd'hui, on sait qu'en fait, la Terre n'est pas plate, elle est ronde. Mm-hmm. Et non seulement elle tourne sur elle-même, mais elle tourne autour du Soleil, mais en plus, elle tourne autour de la galaxie, et que la galaxie tourne autour de quelque chose d'autre encore, qu'on ne sait pas.
Et donc ça veut dire que je ne suis pas le centre du monde? Bon, bah, c'est une grande découverte.
Et c'est ça qui dévoile en fait le champ des possibles. Et donc, j'ai appelé ça le champ scalaire dans Octavian, c'est un peu ringard comme titre, mais l'idée c'est qu'en fait, le champ scalaire, l'idée c'est de donner un champ, c'est-à-dire, depuis en fait qu'on a trouvé les champs magnétiques, c'est qu'en fait, c'est un espace de possibles. C'est comme un bac à sable en plus. C'est comme un bac à sable où on va dire, tiens, je vais prendre ça. Ah, si je mélange ça avec ça, je mélange ça avec ça.
Ouais, c'est un terrain de jeu, c'est un terrain de jeu.
Il y a tous les horaires, c'est-à-dire que, par exemple, tu vas prendre l'horaire de Jupiter, tu vois, et tu vas prendre l'horaire de Terrien, et tu vas prendre l'horaire d'une autre galaxie, en disant, bah tiens, si on va pour les joindre ensemble, et comment on va faire pour que ça puisse sonner ensemble? C'est ça, les champs scalaires.
Waouh.
C'est ça, en fait, c'est un champ d'opération possible à prendre différents horaires qui vont sonner, en fait, différemment. Parce que le truc génial que je m'en suis rendu compte, et ça, c'est grâce à Debussy, c'est qu'en fait, n'importe quelle échelle, en fait, a une sonorité unique et identifiable.
Propre à elle. Et en fait, c'est là où on commence à un petit peu avoir une nouvelle compréhension, finalement, de ce que peut être la fausse note, en fait. C'est que...
Et là, elle a disparu.
Elle a disparu. Finalement...
Parce que n'importe quelle note va se retrouver dans une échelle.
Quelque part. C'est beau, ça. Donc là...
Tu vois, ça veut dire que l'espace, il est tellement quadrillé, en fait, avec des échelles... qui sont toutes plus ou moins multiples ou pas multiples, qui sont mais imagine le quadrillage de la Terre, tu sais, avec les longitudes et les latitudes, tu vois. Et imagine que ce quadrillage est tellement fin qu'en fait qu'on n'arrive même pas à voir en fait les intervalles entre les lignes. Donc tu vas poser un point quelque part en fait sur la planète et tu vas dire, mais attends, mais là t'es pas juste parce que t'es entre les deux bornes. Ah bah non, regarde, je suis en relation avec l'échelle, en fait.
La maille est beaucoup trop serrée, elle appartient à quelque chose.
Voilà.
Exactement, et ça veut dire que si je fais une traduction très directe sur, par exemple, ce que j'écoute moi au quotidien, je veux dire, j'écoute beaucoup de musique, et c'est en fait, toute cette musique-là, finalement, est quand même basée sur toutes ces octaves et tout ce champ théorique figé, et qu'est-ce qui va faire en sorte que, bah, finalement, je vais pouvoir écouter autre chose et finalement comprendre un petit peu...
En fait, on a un passage à faire, en fait, l'humanité, pour passer, en fait, de la théorie musicale, en fait, hiérarchique, avec monoscalaire, au champ scalaire multiple.
Donc ça change l'écoute.
Non, ça change l'état d'esprit.
Ça change l'état d'esprit.
C'est-à-dire qu'en fait, on va changer de manière de voir les choses.
D'accord.
C'est-à-dire que ça va être une transformation politique et psychologique en même temps.
Waouh. Ça annonce.
Oui, ça annonce ça, oui.
C'est génial.
C'est-à-dire que si on accepte en fait de dire qu'il y a toutes ces différences qui existent et qu'on ne va pas avoir peur des différences, ben à ce moment-là, les états d'esprit vont changer.
Ah ouais, donc ça voudrait dire qu'on pourrait, on pourrait tout à fait conclure sur la fausse note n'existe pas en fait.
La fausse note n'existe pas.
Pas mal. Je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter par rapport à cet épisode. En tout cas,
en tous les cas, c'est beau parce qu'en fait, tu vois, la musique qui a été rejetée en fait des sciences, donc au XVIIIe siècle, en revenant, si elle reprend sa place en fait qui a été jetée, et moi je m'efforce de tout mon possible à ce que la musique soit remise en fait, parce que l'écoute en fait, au fond, elle est très très précise.
Bien sûr.
Et on arrive à détecter avec l'écoute en fait grâce aux sonorités, c'est-à-dire on peut différencier des identités sonores, en fait, des sonorités avec une précision au millimètre, en fait, à la millifréquence. C'est absolument hallucinant. C'est-à-dire que notre conditionnement, la première chose qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va se déconditionner, parce qu'on a un conditionnement qui est terrible. C'est-à-dire qu'on va si on dit que c'est une fausse note, c'est parce qu'on a un conditionnement qui est épouvantable. C'est-à-dire que là, c'est interdit de marcher. Hein. Donc bah, là, tu vas pas marcher. Et comme tu sais pas, tu vas jamais marcher là-bas, tu sais pas ce que c'est. Tu vois. Mais si tu vas ouvrir, en fait, ta perception, parce que là, en plus, tu vois, c'est noir, là où tu n'as pas le droit de marcher. Et là, c'est toujours la perception de te dire « Ah, c'est un peu gris, ah, c'est un peu... Ah, oui. » Parce que c'est très difficile, par exemple, de faire une différence entre deux gammes. Faisons un exemple. On va mettre deux gammes.
Allez, c'est parti.
Deux gammes non octaviantes,
okay.
Hein, deux échelles non octaviantes, et on va essayer de voir la différence.
Ok, donc là, on lance...
Deux gammes au hasard.
Deux gammes au hasard. Allez, c'est parti. C'est évident.
C'est-à-dire que c'est très difficile. Moi, imagine, ça fait plus de 40 ans que je suis dans les échelles et que je devrais déjà les détecter. Tu vois, mais précisément, savoir qui, quoi, où. Mais je suis tellement conditionné, même moi-même. C'est-à-dire que j'arrive pas à me déconditionner, en fait, pour entendre précisément tout exactement. J'imagine les auditeurs qui sont même pas posés la question. Ça va être un processus sur des centaines d'années.
Tu vois. Mais c'est intéressant. En tout cas, j'espère que... moi, en tout cas, à titre personnel, ça me permet de un petit peu mieux comprendre quelles sont un petit peu ces normes et là où finalement historiquement ça il y a eu, comme on a dit, quelque chose qui s'est renfermé quoi, qui s'est renfermé et qui n'a pas permis finalement de pouvoir libérer la création sur toutes ces zones.
Oh, c'est même pas la création, c'est tout simplement le possible de l'humain. Ça va aussi loin que ça. Parce que le problème en fait de la domination politique, c'est qu'en fait elle est dirigée par la peur. Donc je veux dire, on veut que tout le monde soit pareil, on veut penser pareil, on veut surtout être dans nos petites habitudes et ne pas être dérangé dans nos petites habitudes. Parce que si on est dérangé dans nos petites habitudes, c'est la panique. C'est aussi la panique.
Qu'est-ce qui se passe?
Alors qu'au contraire, mais le monde...
C'est toute cette richesse.
Mais il est magnifique.
Toute cette richesse de découverte.
Ben, au fond de nous-mêmes, on a envie de voyager. On a envie d'être libre, on a envie de se déplacer librement. On n'a pas envie d'être contrôlé, de nous dire ce qu'on a à faire. On a envie de découvrir le monde, parce que la vie, elle est courte quand même, il faut dire ce qu'il y a. Donc cette vie courte, on a envie d'en profiter et de voir les richesses qui nous sont données. On n'a pas envie d'avoir un truc merdique, quoi.
Donc arrêtez bordel avec ces fausses notes. Et tout ce qu'on peut souhaiter, c'est de pouvoir
finalement quand les fausses notes seront
aller découvrir, aller sur la découverte, cette curiosité Et puis, ben, ça va le faire.
Moi, ouais, ça commence à prendre petit à petit, parce que sur le site web, donc, j'ai mis les échelles gratuitement à télécharger. Hein, mm-hmm. On peut les brancher sur les ordinateurs, hein, mm-hmm. sur les claviers, on les rentre sur ouais. l'exemplaire et tout ça.
Petit clin d'œil, évidemment, hein, sur le site, il y a toutes tes musiques téléchargeables.
Il y a tous les textes aussi.
Il y a tous les textes, il y a toute cette matière qu'on essaie de traduire avec ce médium un peu de podcast. Mm-hmm. En tout cas, merci Mathieu Shadowsky pour cet épisode et cet éclaircissement de la fausse note.
Merci de m'avoir invité, c'était cool.
Et puis, bah, rendez-vous à toutes et à tous au prochain.